Nouméa organise la 7e édition de Fête du Sport. Plus d'une cinquantaine de clubs et d'associations sont présents au complexe sportif de Lansvatar. Rendez-vous qui continue jusqu'à 15h. Près de 200 personnes ont marché pour Joëlla ce matin. Une marche blanche après le drame survenu dans la nuit du 7 au 8 février dernier dans le quartier de Saint-Quentin. 2000 à 3000 personnes attendues dans les rues de Lyon. Une marche blanche en hommage à Quentin, battu à mort la semaine dernière par des activistes d'ultra-gauche. La préfecture du Rhône a finalement autorisé ce rassemblement. Un deuxième porte-avions américain pourrait arriver dans le golfe Persique. Le Gérald Ford est entré en mer Méditerranée. Ses manœuvres visent à accentuer la pression sur Téhéran en pleine négociation sur le dossier nucléaire. Et puis le sport et les Jeux Olympiques d'hiver à Milan Cortina. Le biathlon français a apporté une 20e médaille au bleu. Quentin Fillon-Maillet a terminé 3e de la Mastart. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. C'est la rentrée des associations sportives de Nouméa. Comme chaque année, en cette période de rentrée scolaire, la ville relance son opération Fête du Sport pour faire découvrir ou redécouvrir l'ensemble des pratiques sportives proposées sur la commune. Rendez-vous qui se déroule au complexe sportif de Lansvatar, Michael Juneski.
Le premier public visé, ce sont bien entendu les plus jeunes. À la recherche d'un premier sport ou pour s'essayer à de nouvelles activités, la majorité des pratiques sont représentées avec de nombreux ateliers rassemblés en un seul lieu. Les plus jeunes sont conquis.
C'est la course, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, voilà, de l'athlétisme.
Alors, tu trouves ça comment ?
Bah, je trouve ça facile. Je pratique dans un club de rugby. Pour moi, c'est facile vu que c'est quand on court dedans.
J'aimerais bien essayer l'athlétisme si c'était possible en plus, c'est ça ?
Oui, le golf. J'essaye de mettre les balles en mousse dans le cerceau, près des drapeaux.
Tennis et là je vais commencer le rugby et de la boxe. J'ai vu du karaté, j'aimerais bien essayer.
Le cheval.
Alors c'était comment ?
C'était bien.
Tu as aimé ?
Oui.
C'est aussi pour les clubs l'occasion d'obtenir une vitrine sur mesure pour leurs activités. Plus d'une cinquantaine de pratiques sont représentées, des plus populaires, football, rugby, athlétisme, aux plus insolites qu'on retrouve aussi aujourd'hui.
Je suis Maureen Catane, je suis l'entraîneuse de roller artistique au sein de la section des sports urbains de l'Olympique de Nouméa. C'est de faire connaître la discipline. On nous dit souvent qu'on n'est pas très connu, mais en fait, finalement, ce qu'on voit sur la glace en patinage artistique, on peut tout à fait le faire en roller. Le but, c'est de faire découvrir notre discipline et on a aussi du hockey dans notre section, donc c'est assez complet.
Julien Forêt, responsable de l'enseignement et de l'école de golf au golf de Tina et responsable du sportif au niveau de l'association. Là, le but, c'est vraiment de faire découvrir l'activité parce que c'est un sport qui reste très méconnu, je dirais, et on a toujours un peu cette appréhension. Donc la possibilité là, c'est qu'on peut vraiment découvrir des jeunes. Donner la possibilité, que ça soit de 4 ans à 18 ans, bien évidemment tout le monde est le bienvenu, justement pour aussi faire découvrir qu'on a une école de golf, notamment au golf de Tina, avec des jeunes qui vont de 4 ans jusqu'à 18 ans, donc ça fait partie de la progression d'un jeune d'être dans une école de golf et pouvoir pratiquer dans des bonnes conditions.
Antoine Schneider, je suis le président de l'association de l'étrier de Nouméa. Alors, l'intérêt principal, c'est de faire découvrir les poneys, de proposer des baptêmes poneys aujourd'hui sur le stade, de donner un maximum de renseignements pour faire découvrir cette nouvelle activité qu'on peut voir aujourd'hui.
Ils sont surpris quand ils découvrent votre stand ici sur le stade Pentecôte ?
Oui, ils sont agréablement surpris et ils demandent tout de suite à aller faire un baptême. Donc on est content d'être là et c'est avec plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui jusqu'à 15h.
Il s'agit de la 7e édition de l'opération Fête du Sport, organisée par la ville de Nouméa. Un moment important pour le maire Sonia Lagarde.
C'est une belle fête tous les ans, elle s'appelle Fête du Sport, donc il y a énormément de gamins là qui viennent et qui regardent un peu toutes les disciplines que peut offrir la ville de Nouméa. Les inscriptions vont bon train, parce que c'est vrai que c'est au début, à la rentrée, ceux qui sont déjà bien impliqués dans des disciplines, il y a aussi des gamins qui ne sont pas. Et donc ça permet de pouvoir découvrir. On a affaire ici à des gens qui font du sport dans les associations, mais qui sont des passionnés. Donc c'est toujours un plein succès. Et puis vous savez, nous on est très performants en mairie. On a un sport action avec des équipes formidables. Toutes les disciplines sont mises à disposition de tous les enfants de la ville. Et voilà, c'est Fête du Sport, c'est un peu la concrétisation de ce que fait la la commune de Nouméa depuis des années et ça permet de découvrir tout ce qu'on peut faire et les inscriptions marchent bien ce jour-là. Voilà, donc tout va bien.
Les partenaires institutionnels sont également présents pour présenter les dispositifs d'accompagnement ou pour obtenir les documents tels que les certificats médicaux. Le rendez-vous continue jusqu'à 15h cet après-midi au Stade Pentecôte et dans la salle Omnisport de Lens-Vatar.
Près de 200 personnes ont marché pour Joël à ce matin, une marche blanche après le drame survenu dans la nuit du 7 au 8 février dernier dans le quartier de Saint-Quentin. L'émotion était vive pour la famille de la victime, mais aussi pour les représentants des collectifs présents. Une marche qui se déroulait le long de la baie de Sainte-Marie. Julien Bestien est bénévole au sein de l'association Rainbowlution.
L'idée, c'est vraiment de refaire société. On vit un moment terrible, un meurtre. Autour de nos thématiques, autour de plein de communautés, que ce soit la communauté du Volet, la communauté wallisienne, de notre communauté LGBT, puisque Joël était trans. L'idée, c'est de refaire société. Moi, j'ai juste envie de dire de reprendre le temps de discuter, d'apprendre à connaître l'autre. On a trop tendance à se dire « cette personne est différente ». Commençons par trouver nos points communs. On apprend à se connaître et après, on parle de nos différences. Et si on remet la discussion sur la table, on saura comment interagir. On n'aura pas peur de se dire oui, mais surtout de se dire non et de respecter ça.
Et rappelons que les deux auteurs présumés ont été mis en examen pour meurtre et placés en détention provisoire au camp Est. Un homme condamné à 8 ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle commis en récidive a été interpellé hier à Dimbéa. Il avait été reconnu coupable par le tribunal correctionnel le 6 février dernier pour des faits qui remontaient à novembre 2021 au parc de Coutio. Un mandat d'arrêt avait été délivré à son encontre en raison de la lourdeur de la peine prononcée et de la dangerosité. Il était activement recherché depuis cette date. L'homme s'est finalement présenté de lui-même à la brigade de gendarmerie de Dimbéa, accompagné de membres de sa famille. Un nouveau pas dans la campagne au municipal. Johan Lecourrieux, le maire sortant de Dimbéa, candidat à sa succession, a présenté sa liste hier soir. Elle est composée de 41 personnes, parmi elles de nouveaux colistiers et autant de membres de l'équipe sortante. La liste Dimbéa avant tout se veut représentative de la commune, comme l'explique Johan Lecourrieux.
Il y a 50% de personnes qui viennent du nord, 50% de la partie sud. Nous avons à peu près toutes les communautés représentées au sein de cette liste. Il y a de nouveaux colistiers, mais l'objectif c'est de garder l'expérience, donc nous avons à peu près 50% des personnes qui restent, qui vont partager cette expérience avec de nouveaux profils. Vous avez des anciens comme Mireille Leu, qui était en charge du social, comme Gérard Piollet, qui est actuellement mon premier adjoint, mais vous avez aussi de nouveaux arrivants, tels que Pierre Forès, l'ancien directeur de la jeunesse et sport de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons aussi le plus jeune, qui a 28 ans, Jonathan Soheri, connu aussi pour son côté de DJ, sous le prénom de Jawa. Nous avons de nombreux profils qui représentent aussi des profils socio-professionnels, des entrepreneurs, des infirmiers. On a vraiment toutes les professions qui sont représentatives de la collectivité.
Yann Lecourrieux a présenté sa liste lors d'une réunion publique à la maison de quartier de Dimbéa-sur-Mer. Il a également présenté les grands axes de sa campagne. 4 autres personnes ont déposé leur candidature pour Dimbéa. Cynthia Jean, candidate loyaliste. Muriel Malfar-Paoga, candidate sans étiquette. Rachel Hocher pour le FLNKS. Et Vaimoua Mouliava pour l'éveil océanien.
Il est 10h09 sur Radio Rythme Bleu.
Il est 12h09 sur Radio Rythme Bleu. Matinée, portes ouvertes aux ateliers du Faubourg, dédiés à l'apprentissage des pratiques artistiques. Les ateliers du Faubourg accueillent tout au long de l'année des intervenants qui proposent des cours et des ateliers adultes et enfants dans de nombreuses disciplines. L'occasion pour le public de se renseigner et de s'inscrire aux cours proposés.
Je viens voir pour les cours de piano.
Je suis venue faire un petit tour d'horizon pour les activités proposées pour ma petite fille, comme elle est intéressée par pas mal de choses. Là, il y a l'art plastique qui l'a intéressée, le théâtre et la musique. Un large éventail. Il faut juste qu'on arrive à trouver un créneau horaire qui convienne par rapport à notre planning et nos obligations professionnelles.
Des activités dont je ne fais pas au quotidien, comme par exemple la guitare. Et je fais aussi ce qui me plaît, le dessin.
Je suis venue pour le truc de musique, de la guitare.
Je me suis inscrite en fait pour découvrir l'aquarelle. Alors, c'est quelque chose qui me plaît en fait déjà depuis quelques années. Et là, comme je suis en retraite en fait, je trouve que c'est une activité assez surprenante. Ma foi, là je découvre et c'est un peu de la magie.
Je suis venue pour me remettre à l'aquarelle parce que j'en ai fait il y a très longtemps. Et ça me détend, ça me repose.
J'ai envie de reprendre un petit peu des bonnes habitudes de relaxation par l'aquarelle.
Des agents de la ville de Nouméa étaient également présents pour renseigner les personnes souhaitant obtenir des informations pour devenir intervenant artistique aux ateliers du Faubourg. Les précisions de Marie Comon, responsable du pôle administratif et budgétaire de la direction de la culture de la ville de Nouméa.
Tous les intervenants sont présents ce matin, donc on va avoir des cours d'art plastique, on va avoir des cours d'aquarelle, on va avoir des cours de dessin, de peinture, de la mosaïque. On a aussi tout ce qui est théâtre et improvisation et on a aussi tout un panel de cours de danse qui sont proposés, de la bachata, de la salsa, de la danse celtique, du rock, voilà, beaucoup de choses, beaucoup de choix.
Et comment ça se passe depuis l'ouverture des portes?
Ça se passe très bien, on avait des personnes qui étaient même là avant 9h. Les gens viennent beaucoup pour se renseigner, après on a tout un panel de renseignements qui sont demandés, autant pour adultes que pour enfants. Les gens viennent en famille, donc il y a aussi des personnes qui viennent se réinscrire, des personnes qui sont déjà inscrites mais qui viennent voir aussi les autres cours proposés et puis des personnes qui découvrent aussi les ateliers du Faubourg, qui en ont entendu parler sur les réseaux, qui ont vu la banderole, donc voilà.
Une matinée aux portes ouvertes aux ateliers du Faubourg qui a refermé ses portes à midi. C'était lundi soir, le nouvel an en chinois. La communauté vietnamienne organisait à cette occasion une grande soirée au foyer de Tina. La communauté chinoise, elle se retrouve traditionnellement le premier samedi suivant le nouvel an pour faire la fête. 280 personnes sont attendues ce soir au restaurant du CNC, nous a dit Michel Fong, le président de l'Amicale des Chinois de Nouvelle-Calédonie.
D'habitude, ce restaurant ne fait pas de la cuisine chinoise, mais à notre demande, ils vont faire de la cuisine chinoise. Ce seront des plats que tout le monde connaît plus ou moins, peut-être pas le porc à la sauce d'huître, parce qu'ici nous connaissons surtout le porc au sucre. Le porc au sucre c'est plutôt vietnamien et chez les Chinois c'est plutôt le porc à la sauce d'huître. Nous avions prévu une danse du dragon, malheureusement les danseurs ne sont pas disponibles, donc il n'y aura pas d'animation particulière. C'est l'occasion de nous retrouver ensemble. Il y aura une bonne ambiance et puis j'en profite pour vous présenter nos meilleurs vœux à toute la population de la Nouvelle-Calédonie, en espérant que cette année du cheval de feu, ce sera une meilleure année pour tout le monde.
Michel Fong, le président de l'Amicale des Chinois de Nouvelle-Calédonie. Les Bretons animent l'hippodrome Henri-Millard ce soir à l'Armorique. L'Amicale des Bretons et des Amis de la Bretagne organise une grande soirée fest-noz. Leur spécialité, ce sont bien sûr les crêpes, les galettes, mais aussi les danses bretonnes. Micheline Ménaché est membre de l'Armorique.
Les fest-noz, on danse breton. On danse les androts, les enterdros, tout ça, comme il y a partout en Bretagne. Il y aura une petite initiation pour ceux qui veulent de 19 à 20 heures, des petits pas de danse. Il y aura une restauration bretonne. Je pense que ce sera des galettes ou des crêpes. Nous aurons des groupes de musique, nos codes et ultra-acoustiques. Ça crée un climat, c'est une bonne ambiance, tout le monde peut venir, n'importe qui, c'est vraiment festif.
Et l'inscription se fait sur le site ticket.nc. Elle est à 1500 francs, sachant que 20% de cette somme est reversée à la maison Gabriel Poédi, dédiée au polyhandicap à Nouville.
Mazda vous offre les pages souvenirs de rentrée. Chez Mazda, en ce début d'année, retrouvez toute notre gamme. Citadine, SUV, utilitaire, sportive, à chaque besoin, nous avons ce qu'il vous faut. Passez nous voir et trouvez le véhicule dont vous avez besoin pour vous, votre activité professionnelle ou vos loisirs.
Et ce midi, les souvenirs de rentrée de Xavier Benoît, c'est le président de la FINC.
La rentrée scolaire, pour moi, c'était il y a longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de rentrée scolaire, sauf pour mes enfants. Mais aujourd'hui, oui, parler de l'objet qui symbolise une rentrée scolaire pour moi, il y en aurait plusieurs, mais je crois que celui qui m'a marqué de manière constante à chaque rentrée scolaire, c'est mon cahier de texte. Parce qu'en fait, on commençait avec un nouveau cahier de texte. Et donc, la rentrée scolaire, c'était un renouveau. Et donc, c'était un renouveau avec plein d'espoir. On avait l'espoir d'une année renouvelée, avec une nouvelle chance à chaque fois. Et donc, vous voyez, le cahier de texte, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image du cahier de texte avec des spirales en plus, constamment. Mais pour moi, c'était effectivement l'objet le plus important que je devais amener pour ma rentrée scolaire, puisque c'est là qu'on écrirait ou qu'on écrivait à chaque fois l'agenda, notre emploi du temps de la semaine. C'était là qu'on commençait à structurer notre année. C'était là qu'on notait effectivement les noms des profs qu'on avait. C'était là qu'on notait le numéro de la classe dans laquelle on était. Et puis c'est là qu'on commençait à noter les devoirs. C'était super bien tenu au départ, un peu moins à la fin. Heureusement, on pouvait le déchirer et le jeter en fin d'année scolaire. Mais vraiment, oui, pour moi, le cahier de texte en début d'année scolaire, c'était vraiment le signe d'un renouveau et d'une nouvelle chance. Et donc, c'était un objet qui comptait pour moi.
Un message particulier pour cette rentrée scolaire 2026 ?
Eh bien, un message pour tous les jeunes qui vont faire leur rentrée scolaire. Faire des études, c'est une chance, il ne faut jamais l'oublier. Et surtout, c'est la chance de pouvoir demain choisir ce que vous allez faire de votre vie. Donc, allez-y avec joie et bonheur. Vous verrez que pour l'essentiel des gens dans le monde, la période des études, c'est une belle période, que ce soit des études dans le primaire, dans le secondaire, dans le supérieur. C'est une belle période et c'est une période où on construit son avenir et qui nous permet de choisir ce qu'on fera par la suite. Et choisir ce qu'on fait par la suite, c'est la plus belle chance qu'on puisse avoir.
Les souvenirs de rentrée de Xavier Benoît, le président de la FINC, au micro Radio Rythme Bleu de Kalinda Boiscouf.
C'était les pages souvenirs de rentrée offertes par Mazda. Passez nous voir à notre showroom situé au 174 rue Auguste Bénébigue à Magenta et repartez avec le véhicule qui vous convient. De la citadine à l'utilitaire, Mazda, c'est toute une gamme qui s'adapte à vos besoins. Mazda, drive together.
Radio Rythme Bleu, il est 42h17, enfin non, midi 17, une première pause dans le journal.
Et si l'on dressait la liste de toutes les choses géniales ? Interprété par Stéphane Dora, ce spectacle ouvrira la saison du Théâtre de Lille le samedi 28 février et le dimanche 1er mars à 18h. Toutes les choses géniales, venez voir ce spectacle sensible et lumineux sur la résilience et le sens de la vie. Rendez-vous au Théâtre de Lille. Réservation sur ticket.nc.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
L'Armorique, amicale des Bretons, organise un fest-noz le samedi 21 février à l'hippodrome de Nouméa à partir de 18h. L'entrée est à 1500 francs sur place ou disponible sur ticket.nc. Restauration bretonne sur place, venez nombreux.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Et la suite du journal, c'est avec Lionel Sablon.
2000 à 3000 personnes sont entendues dans les rues de Lyon. Une marche blanche en hommage à Quentin, à ce militant identitaire battu à mort la semaine dernière par des activistes d'ultra-gauche, meurtre pour lequel, vous le savez, 7 suspects ont été mis en examen. Parmi eux, 2 proches collaborateurs du député LFI Raphaël Arnaud. La préfecture du Rhône a finalement autorisé ce rassemblement malgré les protestations de la mairie écologiste de Lyon. Jean-Luc Boujon pour Europe 1.
Le maire Grégory Doucet avait demandé son interdiction en raison, avait-il expliqué, de la venue probable de groupes d'extrême droite à Lyon susceptibles de commettre des actes violents. La préfecture, elle, a préféré autoriser le rassemblement pour mieux maîtriser les choses et éviter de potentiels affrontements sauvages. Ça veut dire que cette marche sera très encadrée sur tout son parcours d'une longueur d'1,4 km avec un dispositif policier musclé. Elle renforce d'une compagnie de CRS, 2 gendarmes mobiles et de policiers venus d'autres départements. Aliette Espu, l'organisatrice de cet hommage, s'en réjouit. Elle exhorte tous les participants de demain au calme et à la retenue.
J'appelle l'ensemble des manifestants qui viendront demain à rendre hommage de façon pacifique pour respecter la mémoire de Quentin et pour respecter sa famille. Je ne veux pas de récupération, ça n'a pas lieu d'être, et puis également la famille s'y est opposée. Cette manifestation n'est pas une manifestation d'appel à la haine ni à la vengeance. C'est un hommage pour honorer la mémoire de ce jeune homme. C'est très très important et j'insiste sur ces mots.
2 drones seront également utilisés pour survoler la marche, sans oublier l'interdiction décidée par la préfète du Rhône de tout autre rassemblement jusqu'à 3h du matin dimanche. Ceci afin de dissuader des groupuscules d'extrême gauche qui pourraient être tentés de venir pour en découdre dans la soirée une fois l'hommage terminé.
Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Cette marche en hommage à Quentin se déroulera sans représentant du Rassemblement National. Le président du RN, Jordan Bardella, a demandé à ses cadres de ne pas s'y rendre pour des raisons de sécurité. Le meurtre de Quentin, dont on parle aussi beaucoup à l'étranger, aux États-Unis, l'administration Trump a dénoncé la violence politique de l'extrême gauche et à suivre ce dossier de près. Giorgia Meloni évoquait cette semaine une blessure pour l'Europe entière avant d'être sèchement recadrée par Emmanuel Macron, le président de la République, invitant la première ministre italienne à se mêler des affaires de son pays. Colère totalement disproportionnée aux yeux de l'eurodéputé italien Vincenzo Sofo.
En fait, c'était pas du tout une attaque à Emmanuel Macron. C'était justement même un hommage déjà transversal et même qui sort un peu des frontières nationales. Parce que enfin, nous, on connaît très bien qu'est-ce que c'est la violence politique. On a eu des années de plombes, on a eu des centaines de morts dans les années 70 les 4 vents. Donc on sait qu'est-ce que c'est, on connaît la menace. Et donc voilà, donc on est très sensible au sujet. Bah, Meloni, de façon très polie, a voulu faire un hommage à un petit jeune, le pauvre, qui s'est fait tuer par cette violence, en disant c'est un problème qui nous concerne tous. Et donc c'est justement ça. Et donc c'est plutôt une espèce d'appel à la coopération.
Vincenzo Sofo, eurodéputé italien, membre du parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. L'examen du texte sur la fin de vie se poursuit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et plus les débats avancent au Palais Bourbon, plus les opposants à la création d'une aide à mourir voient leurs craintes se confirmer. Maïalène Trémollet pour Europe 1.
Alors que sur les bancs rouges, la lassitude se fait sentir, les députés continuent à débattre sans relâche. Mais si les partisans de l'euthanasie affirment échanger sur un texte d'équilibre voulu par les Français, les opposants, eux, ne cachent plus leur inquiétude face aux multiples ouvertures et risques de dérives qu'ils pointent dans cette nouvelle copie. J'ai l'impression de crier dans le désert, soupire un élu qui rappelle que plusieurs digues importantes ont sauté cette semaine. Ainsi, par exemple, le patient a désormais le choix. Il pourra s'administrer la substance létale ou réclamer que le geste soit pratiqué par un soignant, même s'il en est capable physiquement. Par ailleurs, la souffrance physique ou psychologique insupportable, l'un des 5 critères nécessaires pour avoir droit à une aide à mourir, n'a plus besoin d'être constante. Et dans le même temps, plus de 150 amendements visant eux à mieux encadrer l'accès à l'euthanasie pour protéger les personnes les plus vulnérables ont été rejetés d'emblée par la commission des finances, jugés irrecevables au prétexte qu'ils aggraveraient une charge publique.
Maïlène Trémollet du service politique d'Europe 1. La coordination rurale annonce sa volonté de boycotter la visite d'Emmanuel Macron au premier jour du salon de l'agriculture demain à Paris. Le syndicat met en garde le président de la République contre un accueil houleux de la part de ses adhérents quelques semaines après une nouvelle vague de contestation, mouvement déclenché par la gestion de l'épisode de dermatose, maladie qui empêche la présence de bovins cette année, porte de Versailles. À l'étranger, un deuxième porte-avions américain pourrait arriver dans le golfe Persique très prochainement. Le Gerald Ford est entré en mer Méditerranée. Le bâtiment a été aperçu dans le détroit de Gibraltar. Un premier porte-avions américain, vous le savez, déjà positionné aux portes de l'Iran. Ces manœuvres visent à accentuer la pression sur Téhéran en pleine négociation sur le dossier nucléaire. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Une pression militaire et des menaces directes de la part de Donald Trump. Le président américain a confirmé tout à l'heure qu'il envisage bien une frappe limitée contre l'Iran en cas d'échec des négociations. Le scénario militaire redouté se précise donc bien. En cas d'échec des négociations, la question n'est donc plus de savoir si les États-Unis vont frapper, mais quand ils vont le faire, estime le chercheur Frédéric Ancel.
Pourquoi ? D'abord parce que Trump a beaucoup investi sur le plan de sa crédibilité politique et diplomatique. Il a beaucoup menacé, il a beaucoup promis. Et d'autre part, sur le plan militaire, c'est quand même la première fois depuis de très nombreuses années que deux flottes quasi complètes vont se retrouver là dans les prochains jours, très concrètement, en phase offensive autour d'un État.
Une frappe limitée, voilà ce que dit Donald Trump. Elle pourrait viser les infrastructures nucléaires de l'Iran, ses rampes de lancement de missiles ou encore des bases militaires, mais aussi d'autres sites stratégiques du pays pour toucher son économie.
Il y aurait aussi donc des cibles économiques, et là, je pense notamment aux 2-3 ports les plus importants qui donnent directement sur l'océan Indien et qui permettent à la République islamique d'Iran de continuer à commercer avec la Chine.
Cette menace imminente est prise très au sérieux par les pays de la région. Israël, grand allié des États-Unis, se dit sur le qui-vive face à de possibles représailles iraniennes. Mais une solution diplomatique reste possible. Le chef de la diplomatie iranienne affirme aujourd'hui qu'une ébauche d'accord sera prête dans les prochains jours et présentée ensuite aux États-Unis.
Oui. Fried de Villers du service international d'Europe 1. Puis la colère de Donald Trump après le revers infligé par la Cour suprême à son administration sur les droits de douane. Une grande partie de ces surtaxes annoncées au mois d'avril sont jugées illégales par la Cour suprême. Une honte selon le président américain qui promet désormais une barrière douanière mondiale de 10%. Il est midi et 25 minutes. Une dernière pause dans un instant. Le sport.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Nous y sommes. La démocratie participative prend vie au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Une plateforme citoyenne est ouverte pour vous permettre de choisir le sujet qui sera confié à la toute première assemblée citoyenne. Exprimez votre priorité dès maintenant sur www.congrès.nc. Toute l'information est disponible sur le site et la page Facebook du Congrès.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
Le point sport avec Lionel Sabot et Mickaël Juneski.
Et on va parler de tout d'abord des Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina. À 2 jours de la fin de la compétition, le camp tricolore a enregistré un nouveau podium en biathlon. Quentin Fillon-Maillet a décroché une nouvelle médaille de bronze, Mickaël.
Exactement. Encore impérial sur les skis. Quentin Fillon-Maillet qui a toutefois eu plus de mal au tir lors de la Mass Start, mais il a tout de même pris donc cette belle médaille de bronze. Il a terminé derrière les Norvégiens Johannes Dahle et Sturla Lægreid avec cette 9e médaille en carrière. Surtout, Quentin Fillon-Maillet est devenu le Français le plus récompensé aux Jeux Olympiques, été et hiver confondus.
C'est ma plus belle prestation en ski, parce que j'ai 36 secondes d'avance sur le deuxième skieur qui est Sturla Lægreid. Pas grosse performance sur le tir, mais voilà, qui se coulait, c'est le plus rapide sur l'ensemble de la course. Ça fait quand même 3e place, donc je suis content d'aller chercher une 9e médaille, 4e sur ces Jeux Olympiques. Voilà, je suis content aujourd'hui d'aller chercher le plus gros palmarès olympique français. C'est assez incroyable. Bon, il reste Martin à aller chercher avec ses 6 médailles d'or, mais de plus en plus je me mets à me dire que les Alpes 2030 me plaisent, parce que c'est ce que j'aime, et si tout veut bien s'aligner, pourquoi pas.
Ce soir, ce sont les féminines qui s'élanceront à leur tour sur la Mass Start. Au chapitre des désillusions, toutefois, aujourd'hui, encore une 4e place en ski freestyle féminin pour Marielle Berger-Sabatel. Au tableau des médailles, je rappelle que la Norvège est toujours en tête. Désormais, 37 podiums, dont 17 médailles d'or. Les Norvégiens suivis des États-Unis, 27 podiums. Et l'Italie, 3e avec 26 médailles dans ces JO de Milan-Cortina. La France occupe le 6e rang, 20 médailles, 6 en or, 8 en argent et 6 en bronze.
On passe au football, Mickaël, avec la 23e journée de Ligue 1 et des Marseillais qui n'y arrivent plus.
Marseille qui cale encore. L'OM s'est incliné 2-0 sur la pelouse de Brest en match d'ouverture. 2 buts encaissés dans la première demi-heure de jeu. Cette rencontre où les Marseillais n'ont rien pu faire. L'OM n'a gagné d'ailleurs que 2 points lors des 4 dernières journées de championnat et voit donc le podium s'éloigner un peu plus. Les Phocéens sont provisoirement à 5 points de l'Olympique Lyonnais, le 3e. Une dure première pour le nouvel entraîneur de l'OM, Habib Bey.
Le terrain vous ramène et vous reconnecte toujours au football, donc c'est sûr que c'est difficile aujourd'hui dans cette dynamique négative, c'est difficile pour le groupe, mais je leur ai demandé de rester positif. On commence à travailler ensemble, on se découvre, il y a une énergie au sein du club qui est positive et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Mais oui, quand vous êtes dans une dynamique négative, c'est difficile d'accepter une défaite. Le plus important, c'est de trouver les bonnes solutions à la dynamique négative qu'on a en ce moment, tout simplement.
La suite de cette 23e journée du championnat de France, demain, le leader, le RC Lens, fera face à l'AS Monaco. Toulouse accueillera le Paris FC et on aura droit un duel des extrêmes entre le PSG et Metz.
Du tennis avec une finale Alcaraz-Fils à venir à l'Open de Doha.
Le jeune français Arthur Fils va avoir droit à une finale de prestige contre l'Espagnol Carlos Alcaraz, actuel numéro 1 mondial. Arthur Fils, 40e à l'ATP, a tout juste 21 ans, a battu dans le dernier carré le tchèque Jakub Mencik, 16e du circuit mondial. Il retrouvera donc le redoutable Espagnol Alcaraz, déjà vainqueur du premier tournoi du Grand Chelem de la saison en Australie. Le numéro 1 mondial qui, pour sa part, a sorti sur sa route en demi-finale le russe Andrei Rublev, 7-6, 6-4.
Le sport en Calédonie, un grand rendez-vous pour les amateurs de courses pleine nature. Les trailers feront leur rentrée aujourd'hui avec le Nea City Trail.
Le coup d'envoi de la saison des trails, dès 17h au départ, des boucles de Tina, 3 parcours au programme, dont un familial de nuit, des animations lumineuses sur place, épreuve qui donnera également le coup d'envoi du tout premier Punch Power Trail Pro Tour 2026, premier événement du genre, un championnat des trails organisé par Pro Events, le tout dans une ambiance festive, un événement en partenariat avec Radio Rythme Bleu.
Merci Mickaël, 12h30, la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, il sera dispo d'ici quelques minutes. On réécoute sur notre site internet le www.rrb.nc. On se retrouve à 13h pour d'autres informations. Week. Excellent week-end. Bon début d'après-midi.